Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Une forte actualité économique entre questions relatives à l'inflation, à l'emploi, à la sortie de crise. Bonjour Patrick Artus, vous êtes chef économiste de Natexis. Et alors vous publiez avec Marie-Paul Virard La dernière chance du capitalisme aux éditions Odile Jacob. C'est un titre étrange puisqu'on a l'impression que le capitalisme se porte finalement très bien.
Ah ben non, le capitalisme se porte pas très bien. On va pas revenir sur tous les défauts connus du capitalisme, hein, les inégalités, le partage des revenus en défaveur des salariés, etc., l'excès de délocalisation. Non, le vrai sujet, c'est que ce capitalisme-là, qui n'est plus libéral, hein, contrairement à ce qu'on dit le plus souvent, puisque une de ses composantes essentielles, c'est la constitution de monopole, est devenu inefficace. On a de moins en moins de croissance, de moins en moins de progrès techniques, la productivité n'augmente plus, on crée surtout des mauvais emplois. Et donc, la vraie difficulté, enfin, pour ce capitalisme, et ce qui nous fait penser avec Marie-Paul Virard que ces jours sont comptés, la vraie difficulté, c'est que on pourrait sans doute accepter ces inconvénients si c'était quelque chose qui crée du dynamisme économique. Or, il ne crée pas de dynamisme économique, hein, et au contraire. Alors, évidemment, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a plusieurs raisons, hein, mais ce qui fait que ce modèle va être rejeté, c'est que on n'est plus dans le deal de Reagan, hein, où vous aurez des inégalités, mais en même temps, vous aurez une économie dynamique. On a des inégalités, une économie qui n'est pas dynamique.
Mais alors, justement, alors que vous parler d'une économie peu dynamique, la presse, plutôt d'ailleurs la presse américaine pour la situation aux États-Unis, parle d'un rebond étonnant de l'économie, d'une surchauffe avec un risque qui est complètement inattendu parce qu'on s'attendait à avoir un chômage de masse. Il est là, mais moins important que prévu. En revanche, le risque principal qui est pointé, c'est l'inflation.
Oui, alors là, on est dans un horizon qui n'est pas le même, hein. On est dans un horizon de beaucoup plus court terme. Il y a de l'inflation aux États-Unis, hein, le dernier indice des prix est à plus de 4% sur un an. Cette inflation, elle n'est absolument pas structurelle. C'est une inflation qui est complètement accidentelle et transitoire. Elle est due à quelque chose qui est assez particulier, qu'on n'avait pas bien vu venir. C'est que, en sortie de crise de Covid, on a une énorme déformation de la demande au détriment des services et en faveur des biens. Ça fait 30 ans hein, que partout dans les pays de l'OCDE, on consomme de moins en moins de biens et de plus en plus de services, ce qui paraît normal, hein, élévation du revenu, vieillissement, etc. Or là, tout d'un coup, on se met à consommer peu de services et énormément de biens. Et donc, il y a des raretés qui se sont créées à cause de cette déformation de la demande qui n'était pas du tout anticipée. Donc, c'est des raretés qu'on connaît, hein. C'est les matières premières, les métaux, les semi-conducteurs, le transport maritime, etc. Mais ça va se corriger. Si on consomme pas de services, c'est surtout qu'on peut pas consommer certains services. Donc, comme je vais pas au restaurant, je change mon ordinateur, quoi. Mais on voit que c'est pas une caractéristique durable des économies.
Bah, ça va se corriger en attendant. Et ça, c'est vrai, des États-Unis à la Drôme, il y a un certain nombre de produits qui sont de plus en plus chers. Le bois, par exemple.
Oui, alors le bois, c'est aussi les États-Unis. C'est parce que, alors ça, c'est, en fait, on s'aperçoit que peut-être la conséquence la plus importante de cette crise, c'est le télétravail. Hein, peut-être que c'est ça, finalement, le choc majeur. Parce que ça va vraiment changer l'organisation des entreprises. Ça peut fabriquer une grande vague de délocalisation, hein, des jeunes qualifiés. Parce qu'ils vont aller peut-être beaucoup dans des pays où le logement est bon marché, par exemple. Et puis, ça, aux États-Unis, et ça c'est très très bien observé aujourd'hui, ça conduit à ce que beaucoup de salariés quittent les grandes agglomérations et s'installent dans des petites villes. Et donc, ils construisent des maisons en bois. Et donc, il y a une explosion de la demande de bois de construction. Mais à nouveau, une fois que vous avez quitté votre appartement à New York et construit votre maison en bois en haut de Upstate New York, comme on dit, et acheté un ordinateur et une chaise de bureau, c'est fait et vous allez recommencer à consommer des services. Hein. Donc on voit que ce choc-là, c'est pas très intéressant. Enfin, je veux dire, les marchés financiers s'excitent énormément sur cette question de l'inflation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que depuis 25 ans, il n'y a plus d'inflation structurellement? Et est-ce que ces choses structurelles qui font qu'il n'y a plus d'inflation depuis 25 ans ont changé pendant cette crise? Et la réponse est non.
Attendez, avant de continuer sur le risque inflationniste, car il y en a d'autres autres que les matières premières quand même. Est-ce que ça signifie pas, Patrick Artus, qu'il y a tout simplement une demande mondiale qui explose, par exemple pour le prix des containers et oui. Du transport
c'est
marchand est-ce que...
Oui, non mais Guillaume, c'est le même argument. On a acheté énormément d'électronique et de biens d'équipement ménager. Et donc on a fait exploser le trafic depuis la Chine. C'est le trafic transpacifique en conteneurs, c'est le trafic de conteneurs entre la Chine et l'Europe, dont une partie maintenant passe en train. Mais à nouveau, ça fait partie de cette même chose transitoire. Une fois que vous avez changé votre télé, votre ordinateur et votre mobilier, vous allez tranquillement recommencer à aller au restaurant, à voyager et aller au cinéma. Parce que il faut quand même voir que le PIB du monde, la production du monde aujourd'hui, elle est toujours plus basse qu'avant la crise. Donc on dit on a une reprise, oui on a une reprise, mais on a quand même moins de production qu'avant la crise. Donc il ne peut pas y avoir de problème normalement. Il y a un problème parce qu'on s'est mis à consommer massivement un certain nombre de produits qui ont comme composante particulière en général d'incorporer des semi-conducteurs par exemple. Et donc on crée une rareté, mais c'est une rareté qui, à nouveau, ce n'est pas un phénomène structurel de l'économie.
Allez, l'autre phénomène inflationniste, c'est celui de la reprise à la fois des salaires et de l'embauche aux États-Unis, avec des professions qui sont tout simplement dans l'incapacité donc de remplir les offres d'emploi. On le voit aussi en France. Alors je ne sais pas si vous avez des chiffres, Patrick Artus, mais par exemple sur la restauration, on dit que ce sont des secteurs qui ont du mal à embaucher. La conséquence naturelle pourrait être une augmentation des salaires.
Oui, alors ça c'est assez... Il faut aussi faire la part entre l'anecdotique et le macroéconomique. Alors on a tous vu aux États-Unis les annonces chez Amazon, chez Walmart,
chez McDonald's.
Quand vous regardez le salaire horaire...
Les annonces, juste pour expliquer aux auditeurs,
oui,
par exemple...
on a dit que les salaires minima allaient augmenter, alors dans certains cas jusqu'à 15 dollars.
Ça c'est pas anecdotique.
Oui, mais alors quand vous regardez le salaire horaire moyen de l'ensemble des Américains, il a augmenté de 0,7%. Sur un an. Donc en fait, à nouveau, si, c'est anecdotique. C'est-à-dire que au niveau macroéconomique, on trouve le mécanisme macroéconomique qu'on attend. Il manque toujours 9 ou 10 millions d'emplois aux États-Unis par rapport à la situation d'avant la Covid et les salaires n'augmentent pas.
Mais la question du salaire minimal, qui est très importante, oui, pour la gauche et pour Biden, à 15 dollars de l'heure, est-ce que vous trouvez ça anecdotique ?
Mais il ne le fera pas. Moi, je pense qu'il ne le fera pas pour la raison suivante. Parce que si effectivement vous faites une hausse globale forte du salaire minimum aux États-Unis, si on mettait à 15 dollars de l'heure le salaire minimum, on toucherait à peu près directement 30 millions d'Américains, dont le salaire monterait. Et après, vous avez des effets de répercussion, comme on le voit partout. Et là, vous auriez de l'inflation. Simplement, si vous avez de l'inflation, les taux d'intérêt vont augmenter. Et si les taux d'intérêt augmentent, Biden ne peut plus faire son programme de déficit public. Donc, je pense qu'on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire, soit vous soutenez l'économie par un très gros déficit public avec des dépenses d'investissement, des dépenses de protection sociale, etc. Et pour ça, il faut un environnement de taux d'intérêt très bas. Et si vous montez en même temps que vous faites ça le salaire minimum, vous n'avez plus l'environnement de taux bas. Donc je pense que Biden a choisi de ne pas monter le salaire minimum. Alors évidemment, il y aura quelques entreprises où les plus bas salaires vont monter, mais à nouveau, au niveau agrégé, regardez, l'inflation est à 4 et les salaires horaires à 0,7. C'est quand même impressionnant.
Bien sûr, mais cette mesure, elle est plébiscitée par 85% des démocrates, 45% des républicains. Oui. Ça, c'est finalement la chose la plus étonnante.
Mais il ne le fera pas. Ou alors, s'il le fait... Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout avoir. Vous pouvez pas émettre une énorme dette publique, parce que la Réserve fédérale, l'année prochaine, va arrêter d'acheter les émissions du Trésor. Donc, il faudra vraiment placer la dette publique émise. Vous pouvez pas placer une énorme dette publique à des taux d'intérêt bas et en même temps faire une hausse massive des plus bas salaires. Faut choisir. Donc, on peut pas faire les deux.
Mais pour autant, je continue à vous embêter avec ça, Patrick Artus. Pour autant, on pourrait imaginer que cette pandémie ayant vraiment révélé de manière éclatante les inégalités, notamment les inégalités aux États-Unis, la politique de Biden tend à les corriger. L'une des manières de les corriger, c'est d'augmenter le salaire minimal.
Oui, mais je pense qu'il a fait le choix de réduire les inégalités en mettant en place une protection sociale décente. Donc, augmentation des dépenses de santé, augmentation des dépenses d'éducation avec la gratuité hein, des jardins d'enfants, de maternelles, etc. Augmentation d'un certain nombre de dépenses sur l'indemnisation du chômage. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'il a plutôt fait le choix de mettre en place une protection sociale, pas tout à fait européenne, mais allant dans cette direction, plutôt que les hausses de bas salaires. Et alors c'est un débat, c'est-à-dire mais honnêtement vous voyez l'argument. Hein. Les bas salaires, c'est quand même des emplois de service assez peu qualifiés sur lesquels il est très difficile de faire des gains de productivité. Donc si vous montez massivement les bas salaires, vous avez de l'inflation. Ça serait une vérité. Et on peut pas avoir de l'inflation et faire une politique de dette publique massive.
Pourquoi ne pas imaginer un autre partage de la valeur ajoutée?
Oui, mais à ce moment-là, il faut on peut revenir. Enfin, c'est-à-dire, c'est des choses dont on débat dans le bouquin que vous avez la gentillesse de parler. On peut revenir à l'économie des années 70, quoi.
C'est-à-dire
une économie où il y a un conflit pour le partage des revenus, parce que l'inflation. On le sait. Enfin, je veux dire, quand j'étais jeune économiste, on baignait là-dedans. C'était les thèses marxistes, quoi, sur l'inflation. C'est un conflit de partage des revenus.
Alors, il faut expliquer aux auditeurs.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, on a du revenu à se partager. Il y a une partie qui va aux capitalistes et une partie qui va aux salariés. Si, il y a un conflit, c'est-à-dire que les salariés en veulent plus et les capitalistes veulent pas lâcher, bah, les salaires montent et en réaction, les entreprises montent les prix. Et comme les salaires sont indexés sur les prix, les salaires montent.
Les travailleurs ne gagnent rien au final.
Et c'est ce qui se passait dans les années 70 avec l'inflation à deux chiffres, hein, qui était un conflit de répartition, comme on dit, avec en plus une forte indexation des salaires aux prix. Alors ce monde-là a disparu parce que on a d'abord complètement désindexé les salaires des prix, donc même quand il y a de l'inflation, les salaires ne réagissent pas, et puis parce qu'on a complètement tué le pouvoir de négociation des salariés. Donc on n'est plus du tout, aujourd'hui il n'y a plus du tout de conflit de répartition. Donc on pourrait imaginer de revenir dans un monde de conflit de répartition. Simplement la difficulté, c'est que dans un monde de conflit de répartition, on n'a pas le droit d'avoir de dette. Parce que les taux d'intérêt sont élevés. Et or nous, on a fait le choix de la dette. Donc on ne peut plus payer le luxe du monde de conflit de répartition. Ou alors ça va être très compliqué.
Qu'est-ce qui se passe en France pendant ce temps-là, Patrick Artus? Est-ce que finalement la situation est aussi grave que ce que l'on pouvait redouter auparavant?
Vous voulez dire aujourd'hui, conjoncture? Je crois pas. Je pense que tous les travaux que nous faisons, je dis nous, c'est collectivement, à l'ensemble de mes confrères, ont l'air de montrer que le problème est concentré dans les PME des secteurs qu'on connaît tous et qui ont été fermés par la pandémie. Donc en fait, on a 92 ou 13% de l'économie qui va bien et qui va même mieux que ce qu'on anticipait.
Ce qui est quand même étonnant, il faut insister là-dessus, parce on avait vraiment peur d'une
fin. On avait peur de quelque chose de bien pire que ça, mais on a vraiment, aujourd'hui, les derniers chiffres qu'on a sont étonnants. Enfin, les chiffres sont compatibles avec une croissance très forte, quoi, je veux dire. Et puis, on a un bout de l'économie qui fait 6 ou 7% de l'économie qui va, qui allait jusqu'à la semaine dernière extrêmement mal.
Bon, il faut quand même rappeler aux auditeurs, là aussi, qu'on a gagné 2 ou 3%, puisque si Economist parlait de l'économie des 90%, sous-entendu 10% de l'économie est fermé. C'est pas le cas.
Non, c'est pas le cas. Et on fonctionne à moins, on fonctionnait, enfin, jusqu'à là, on n'a pas encore les chiffres, bien sûr, depuis une semaine, mais on fonctionnait à moins 5% de la normale. Mais le reste est extrêmement dynamique. Et cette dynamique, d'ailleurs, elle part aussi du commerce mondial, hein, puisqu'on a, on a une croissance extrêmement rapide du commerce mondial, plus de 9% sur un an. Et un pays comme la France ou l'Europe, globalement, qui est très ouverte, en profite énormément. Donc l'industrie va très bien, et l'industrie, ça diffuse énormément dans les services. Donc en fait, on a une économie totalement bipolaire, quoi. Je dirais, il y a un petit bout qui va très très mal, et un gros bout qui va beaucoup mieux que ce qu'on craignait.
Alors même que la pandémie, si mes informations sont bonnes, Patrick Artus, n'est pas terminée.
Non, elle n'est pas terminée, mais d'abord, les entreprises ont appris à vivre avec. Et puis, on a une reprise simultanée en Asie et aux États-Unis. À nouveau, le commerce mondial, c'est plus 9% sur un an en volume. Hein, donc, c'est quelque chose qui est extrêmement violent. Donc, non, on est plutôt dans une situation où on voit que on a un problème très concentré. Et c'est la même chose pour les salariés. Hein, il y a un petit nombre de salariés, c'est au-delà des salariés, s'il y a des indépendants, etc., qui sont en grande difficulté et une majorité qui a au contraire gagné du revenu pendant cette crise.
Et alors, justement, est-ce que finalement, les mesures différentes, mesures de relance, de soutien à l'économie, il y a d'autres mesures qui sont annoncées aujourd'hui dans les échos, est-ce que ces mesures, finalement, elles ne favorisent pas aussi cette relance?
Il y a deux types de mesures. Il y a eu des mesures complètement défensives Le chômage partiel, les plans de soutien aux entreprises, ces mesures, évidemment, n'ont d'intérêt que tant qu'on est dans une économie en difficulté. Le vrai débat, il me semble qu'il faut qu'on ait, c'est sur les mesures de long terme. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'a annoncé le gouvernement est suffisant ? Et moi, je pense qu'il manque tout un pan, qui est le pan que j'appelle compétences. C'est-à-dire ce qui correspond à l'éducation au sens très large, les requalifications, la formation. On a un énorme problème de compétences dans ce pays, on le sait très bien. Dans le premier plan de relance, on s'occupe de transition énergétique, on s'occupe de réindustrialisation, on s'occupe de santé, on baisse des impôts d'entreprise. Il y a très très peu sur les compétences. Donc je pense qu'il faut un plan compétences. Au sens très large, hein, c'est l'apprentissage, l'alternance, l'université, et ça va jusqu'à la maternelle, où on sait que l'échec scolaire commence dans les toutes petites classes de la maternelle. Donc c'est ça qui manque, et on n'a pas besoin aujourd'hui de faire un grand plan de stimulation des revenus. Enfin, il y a 200 milliards d'épargne accumulée.
La CFDT propose, c'est la une des Échos, oui. Des contrats de 6 mois pour l'embauche dans les très petites entreprises.
Oui, alors on sait qu'on a eu une expérimentation déjà sous Sarkozy hein, de zéro charge sur les embauches dans les PME. Ça marche très très bien. C'est-à-dire que la réponse de l'emploi à ce type de mesure est très forte. Donc on peut effectivement réfléchir à ça. Mais je crois qu'il faut cibler. Hein, on n'est plus aujourd'hui dans un besoin de faire un chèque à tout le monde, quoi, que ce soit des ménages ou des entreprises. Il faut cibler d'une part sur les ménages et les entreprises qui sont encore en difficulté. Et puis je pense qu'il faut cibler sur cette question des compétences, parce qu'on sait que tant qu'on n'aura pas corrigé ça, le reste ne marchera pas. Vous pouvez pas réindustrialiser s'il y a des problèmes d'embauche massifs. Vous pouvez pas digitaliser une économie où il n'y a pas de diplômés en sciences. Enfin, donc il y a un énorme problème de compétences qu'il faut traiter.
On va partir avec vous à la recherche du monde d'après. Patrick Artus, c'est l'un des chapitres du livre que vous publiez avec Marie-Paul Virard, La dernière chance du capitalisme, aux éditions Odile Jacob. On va voir quelles sont les conséquences actuelles de cette pandémie, laquelle n'est pas terminée, mais on voit déjà un certain nombre de temps tendance très nette sur l'économie mondiale. Vous serez rejoint dans quelques instants par Nicolas Chéron. Il est stratégiste marché pour Zone Bourse, spécialiste de crypto-monnaie. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et l'on parle de l'économie du monde d'après, mais pas le monde d'après après, vous voyez, le monde d'après de maintenant, celui que l'on observe déjà sous nos yeux et qui est témoin de ce qui a changé suite à cette pandémie et qui n'a à peu près rien à voir avec ce que l'on imaginait il y a quelques semaines encore. Nous sommes en compagnie de Patrick Artus, vous êtes chef économiste de Natexis. Natexis, il faut dire que sont les anciennes caisses d'épargne.
Pas tout à fait.
Et la Banque Populaire.
C'est Banque Populaire, caisse d'épargne.
Voilà, vous publiez avec Marie-Paul Virard La dernière chance du capitalisme aux éditions Odile Jacob. Et en face de vous, Nicolas Chéron. Bonjour, je vous ai convié, Nicolas Chéron, parce que vous êtes notamment spécialiste de crypto-monnaie. Et l'une des choses les plus étonnantes dans cette atmosphère étrange sur le plan économique, ce sont les crypto-monnaies. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, Patrick Artus, ce monde d'après que l'on voit sous nos yeux, on a commencé à l'évoquer, on a dit qu'il y avait une inflation qui, pour vous, est une inflation momentanée. On a vu qu'il y avait des changements qui étaient déjà des changements effectifs, par exemple le télétravail, avec des répercussions sur l'immobilier, notamment l'immobilier de bureau. Quel tableau dresser finalement de ces changements qu'on a aujourd'hui sous nos yeux ?
Il y a tout ce que vous venez de dire, qu'en général on regroupe sous le mot « digitalisation de l'économie ». Donc tout est plus digital, la façon dont on travaille, la façon dont on consomme, les loisirs. Alors après, il y a un débat entre économistes pour savoir si une économie digitale, c'est une économie avec plus de croissance, de meilleurs emplois ou pas. Les plateformes Internet, ça crée plutôt de mauvais emplois. Hein, donc on n'est pas sûr du tout que cette économie digitale, elle soit meilleure et qu'elle crée plus de revenus et qu'elle crée plus d'emplois qualifiés. Elle crée un petit nombre d'emplois qualifiés et beaucoup d'emplois pas qualifiés. Et puis après, second grand choc, alors ça nous conduit à votre sujet d'après, Guillaume, c'est la monnaie. Les banques centrales, les États ont voulu faire des déficits publics gigantesques. C'était impossible sans le soutien des banques centrales qui ont acheté les dettes publiques émises et ont créé de la monnaie pour payer ces achats. En fait, on a financé les déficits publics par la création monétaire. Ce qui d'ailleurs rend complètement surréaliste le débat qu'on a aujourd'hui sur la dette.
Pourquoi ?
Il n'y a pas de dette Covid. Dette Covid, elle a été aussi vite détruite qu'elle a été créée, puisqu'elle a été rachetée par les banques centrales. Donc tout se passe comme si on avait financé toutes les dépenses Covid directement par de la création de monnaie.
Mais pourtant, il y avait dans les Échos la semaine dernière un tableau assez inquiétant pour les Français qui expliquait qu'il allait nous falloir 67 ans.
Oui, mais c'est un travail.
67 ans pour rembourser la dette.
Un travail de l'ère Hermès que je trouve ridicule, pour dire la vérité.
Pourquoi ?
Elle n'existe pas, cette dette. On rembourse pas une dette qui n'existe pas, quoi. Cette dette, elle a été
détruite. L'argent, il existe.
Oui, c'est de la monnaie. C'est-à-dire que quand l'État français paye le chômage partiel, il fait une gesticulation un peu bizarre qui est due à des contraintes légales, qui est qu'il émet une obligation qui est dans l'instant achetée par la Banque centrale qui paye en créant de la monnaie. Donc on aurait pu s'éviter la gesticulation et créer de la monnaie pour payer le chômage partiel. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que ça s'appelle le financement monétaire du déficit public, mais on a le droit d'acheter l'obligation 3 jours après qu'elle ait été émise. Donc il n'y a pas de dette Covid, donc il n'y a pas besoin de monter les impôts, donc il n'y aura pas à rembourser la dette Covid, et tous ces calculs n'ont aucun intérêt.
Alors pourquoi on ne fait pas ça en permanence ? Pourquoi dans ce cas-là ?
On ne fait pas ça en permanence parce que peut-être il y a quelques inconvénients au fait de créer une montagne de monnaie.
Lesquels ?
C'est ça le vrai sujet. Il y a 100 ans, quand on créait de la monnaie, on avait de l'inflation. Donc c'est notre débat d'il y a une demi-heure. Aujourd'hui, il n'y en a plus, parce que la monnaie n'a plus cette nature-là. Dans les années 20 en Allemagne, hein, quand on monétise les dettes publiques, on fait la même chose qu'aujourd'hui, les Allemands prennent la monnaie et vont acheter à manger. Hein, donc on fait de l'hyperinflation qui part des produits agricoles. Aujourd'hui, quand on crée de la monnaie, cette monnaie, elle sert de placement. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que l'usage qui est fait de la monnaie créée par les banques centrales, c'est 1, acheter des biens immobiliers et 2, investir, quoi, épargner, acheter des actions. Enfin, donc le lien aujourd'hui, il est entre la monnaie et les prix des actifs, c'est-à-dire les actions, les crypto-monnaies, l'immobilier, etc.
Alors justement, c'est de cela dont il va être question maintenant, puisque parmi les conséquences extrêmement étranges de cette période, il y a donc l'inflation des actifs, c'est-à-dire que l'immobilier encore pour une bonne partie, les actions et plus spécifiquement encore, ce qu'on appelle les crypto-monnaies ont vu leur prix s'apprécier, les crypto-monnaies ont vu leur cours diminuer il y a quelques jours, mais au global, c'est une augmentation significative. Vous en êtes spécialiste, Nicolas Chéron. Peut-être tout d'abord une définition, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ?
Alors, permettez-moi une petite précision, je suis effectivement analyste de marché, spécialisé sur le marché action depuis près de 15 ans, et si vous voulez, avec l'avènement de cette nouvelle classe d'actifs aujourd'hui, qui pèse plusieurs centaines de milliards, eh bien voilà, on a énormément de clients qui veulent se mettre sur les crypto-monnaies, qui veulent apprendre quelles que sont les crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de définitions. Certains vont dire que ce sont effectivement des monnaies. D'autres vont dire que ce sont des réserves de valeur. Ce sont des actifs numériques. Donc, pour le coup, on ne va pas avoir de billets de banque ou de pièces en face. On va avoir des lignes de code. Et ces crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est une nouvelle classe d'actifs qui a un peu moins de 10 ans. Le Bitcoin, la principale crypto-monnaie, est née en 2008-2009. Et donc, aujourd'hui, ça devient une classe d'actifs à part entière qui a intéressé énormément d'investisseurs, justement, en cette période Covid très particulière où les gens étaient enfermés chez eux et avaient envie d'investir.
Alors, les crypto-monnaies, effectivement, ce n'est pas seulement le Bitcoin. Le Bitcoin est aujourd'hui assez connu, mais en réalité, il y en a des quantités assez impressionnantes. C'est quand même étonnant de voir des gens acheter des crypto-monnaies, Nicolas Chéron, alors que celles-ci ne sont pas soutenues par des États. C'est même l'une de leurs premières définitions. Ce sont des monnaies, mais il n'y a rien de régalien derrière, alors qu'on a l'habitude de dire que dans les périodes troublées, et la nôtre est singulièrement troublée, les gens vont plutôt vers des valeurs refuges, vers l'or, vers des choses solides. Alors qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, peut-être qu'il y a eu une crainte de certains investisseurs par rapport au système financier dans son ensemble. C'est-à-dire qu'avec cette crise du Covid, on a vu les bourses mondiales s'effondrer, les économies connaître leur pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on a donc une partie des investisseurs, des jeunes notamment, qui se sont dit qu'ils devraient mettre leur argent sur d'autres classes d'actifs qui ne sont pas gérées par justement les gouvernements, les banques centrales. dans une optique de diversification et puis de sortir un peu du système en place dont on sait qu'aujourd'hui il est complètement administré par les banques centrales.
C'est cela en fait qui est assez étrange dans ce phénomène, Nicolas Chéron, c'est qu'on a affaire à un drôle de mélange entre des gens qui sont détenteurs donc d'une culture qui va de la culture geek, de la culture informatique à une culture d'investisseurs traditionnels, un drôle de mélange avec à la fois des gens qui refusent le système tel qu'il est et puis d'autres qui sont complètement insérés dans ce système. C'est un mélange complètement inédit, expliquez-nous.
Oui, c'est vrai qu'on va du geek à l'ultra-spéculateur, c'est vraiment très particulier. Alors on a connu des vagues sur les cryptos, vous avez eu une vague...
Donc sur les crypto-monnaies.
Sur les crypto-monnaies, vous avez des vagues d'adoption massive, 2013, 2015, 2017 et puis plus récemment en 2020, des vagues où vous avez toute une nouvelle partie de la population qui va s'intéresser à la classe d'actifs, qui va rentrer dedans et qui va la faire gonfler. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un mouvement qui avait été créé par Satoshi Nakamoto et c'est une liste de diffusion qui avait été envoyée aux cyberpunks. Donc vous voyez, on parle un peu de gens qui étaient hors du système et qui voulaient se battre pour mettre en place la cryptographie et pour protéger la vie privée. Ça, c'est vraiment le fondement même. Donc au début, on parle de geeks, d'informaticiens. Après, je pense qu'il y a une porosité intéressante entre les informaticiens et la communauté des joueurs en ligne, les fameux gamers. Aujourd'hui, ma génération, j'ai près de 40 ans, a vieilli. Et on a un nombre de personnes qui jouent aux jeux vidéo et qui sont connectées à Internet qui est absolument énorme. Donc je pense qu'au début, on avait les geeks, puis les gamers, et puis on a vu des investisseurs de plus en plus spécialistes, enfin de moins en moins spécialistes d'ailleurs, des spécialistes au début des crypto-monnaies, et puis ensuite des spéculateurs purs qui se sont tout simplement intéressés à la volatilité de ces actifs, puisqu'on parle de performances en centaines ou en milliers de pourcents, là où notre marché action est désormais un peu plus calme.
Et oui, c'est-à-dire qu'on a vu des valeurs, dont le Bitcoin, passer d'une valeur zéro à une valeur de 50 000 dollars pour redescendre, remonter. Patrick Arthur, votre regard sur ce phénomène, là aussi complètement inédit.
Je suis d'accord avec l'explication. Il y a un mélange de, un, défiance vis-à-vis de la gestion monétaire des banques centrales qui créent trop de monnaie, quoi. Donc les monnaies publiques sont dépréciées, dévalorisées.
Mais pourquoi c'est dangereux de créer trop de monnaie?
Non mais oui, et puis il y a le mouvement libertarien en disant ce truc, l'État met pas ses sales mains sur ma monnaie, quoi. Bon, moi je pense que les crypto-monnaies privées vont disparaître. Je pense que dans 5 ans ou dans 10 ans, on n'en parlera plus, parce que ça peut pas marcher. Vous émettez, la façon dont c'est fait, c'est que vous en émettez une quantité qui, à la fin, ne varie plus. Hein, il y a une espèce d'état stationnaire où le mining devient tellement compliqué.
Oh, là, il va falloir que vous traduisiez.
Donc ça devient trop cher d'en fabriquer de nouveau. Donc on aura une offre de Bitcoin, par exemple, qui sera à peu près constante. Hein. Et la demande, elle est ce qu'elle est. Donc, tous les mouvements de la demande passent dans les prix. C'est bien ce qu'on voit. Donc, vous fabriquez un actif dont la variabilité du prix va être de plus en plus gigantesque. Et ça, ça peut pas conduire à ce que ça prenne une part de marché conséquente. Les humains ont pas envie de mettre une partie importante dans leur épargne dans un truc dont le prix peut doubler, puis être divisé par deux, puis redoubler. Hein. Donc, ça va rester petit. Et puis, deuxième facteur, les États sortent leurs crypto-monnaies qui sont...
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire une crypto-monnaie?
Parce qu'on a... Crypto, ça veut juste dire que les échanges sont gérés sur la blockchain. Hein, c'est juste de la technologie.
Alors, la blockchain, c'est un algorithme informatique.
C'est un échange sans unité centrale d'échange.
Hein. Mais c'est essentiel parce que ça veut dire, d'une part, que c'est sécurisé, c'est sur différents ordinateurs.
Il n'y a pas de chambre de compensation centrale. Hein, tout est décentralisé. Mais il y aura bientôt des crypto-monnaies publiques. Et les États qui sortent des crypto-monnaies publiques, on le voit en Chine aujourd'hui, veulent détruire, évidemment, les crypto-monnaies privées pour que les leurs prennent la place. Le Bitcoin en Chine, ses jours sont comptés. Et ça sera bientôt le cas aux États-Unis. Donc je pense que, un, c'est trop volatile. C'est comme l'or avant la découverte des Amériques, quoi. Les prix s'envolent parce qu'il n'y en a pas assez, puis après les prix s'effondrent, ou c'est comme les actions de l'eau, enfin, je sais pas si on veut dire l'eau ou l'as. Voilà. Donc, je ne crois pas à la capacité d'un actif dont l'offre est fixe et n'est pas gérée à devenir important, à prendre une part de marché importante. Et deux, les États vont vouloir imposer les leurs de crypto-monnaie. Donc, ce que nous aurons dans notre téléphone portable, ça sera du crypto-euro. et ça sera pas du Bitcoin, mais ça sera de l'euro, ça sera pas un autre actif, ça sera de l'euro sur la blockchain, quoi.
Mais alors, en attendant, Nicolas Chéron, là aussi, le phénomène des crypto-monnaies, ça n'est pas seulement donc une manière de voir différemment les devises à telle enseigne, d'ailleurs qu'on se demande si on a encore affaire à des monnaies, c'est aussi une autre manière de voir la finance avec différents organismes qui veulent faire concurrence aux banques, qui veulent envisager un autre système bancaire. Expliquez-nous.
Oui, effectivement, via la finance décentralisée, on va permettre à certains acteurs de se prêter de l'argent, par exemple, entre vous et moi, sans passer par le système bancaire. Aujourd'hui, il y a déjà des milliards de dollars qui sont échangés, qui sont prêtés, reçus entre des particuliers, en direct, sans passer par tout le maillage, si vous voulez, traditionnel de la banque qui va valider les transactions et permettre les échanges. Donc
ça, c'est une grande innovation. C'est une manière... Patrick Artus fait non de la tête, mais on va continuer, Nicolas Chéron. Ça veut dire qu'on a la possibilité d'envisager, en tout cas c'est une utopie concrète, une autre manière de faire office de banque.
C'est une possibilité. Après, je pense que de la même manière que les États essayent de contrôler les crypto-monnaies et de les réguler, les banques vont aussi avoir leur mot à dire et vont aussi vouloir peut-être changer la donne. Alors après, j'hésite parce que il y a les banques qui vont se dire contre et puis il y a les banques qui vont carrément investir dedans. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Artus, c'est-à-dire que En 2017, lorsqu'il y a eu la bulle sur les crypto-monnaies, j'étais un analyste boursier classique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on avait une surmédiatisation d'un phénomène, une entrée massive de particuliers qui ne connaissaient rien au Bitcoin. D'ailleurs, on pouvait trouver sur Internet le nombre de recherches comment acheter du Bitcoin en carte bleue qui avait littéralement explosé. Et on avait des prix qui partaient en parabolique. Et à ce moment-là, en 2017, je me suis dit, on est dans la crise des tulipes, on est dans une nouvelle crise, dans une nouvelle bulle majeur et ça va retomber tout seul. Mais depuis 2018, 2019, 2020, depuis 3 ans, il y a comme une maturation de cet écosystème. Et de la même manière qu'en l'an 2000, nos sociétés technologiques avaient connu une bulle, étaient retombées, et puis ensuite on avait une maturation de tout ce qui était technologie, et bien là, ces dernières années, on a vu un nombre de projets se mettre en place autour des crypto-monnaies absolument phénoménal.
Quel type de projet, par exemple? Donnez-nous des exemples.
Alors, vous avez un des plus gros projets qui a été mis en place récemment, c'est un concurrent du Bitcoin, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, c'est un système de protocole. Et alors, c'est encore très abstrait, mais si vous voulez, sur l'Ethereum, on va pouvoir mettre en place des smart contracts. Alors, qu'est-ce qu'un smart contract ? Voyez ça comme un automatisme. Prenons un exemple simple, et c'est aussi parce qu'il n'y a pas encore assez de cas d'utilisation dans la vie quotidienne que les gens ne se rendent pas compte de la puissance peut-être de ce système. Après, je vous avouerai que je me pose encore la question de savoir si dans 10 ans nous aurons un écosystème crypto-monnaie ou pas.
Donnez-nous un exemple de ce que peut être un smart contract.
Eh bien voilà, vous prenez un avion avec Air France, vous allez en voyage et puis à votre retour, votre avion est en retard. Eh bien vous allez mettre en place un smart contract qui va faire que sur la blockchain, on va avoir la liste protégée, cryptographiée de l'ensemble de ces passagers et que si l'avion arrive en retard, eh bien il y a une ligne de code, un automatisme qui dit eh bien l'ensemble de ces clients-là, demain, vont être remboursés d'une partie du prix du billet parce que ils sont en retard. Donc on a comme ça des utilisations qui sont en train de se mettre en place petit à petit. On a des sociétés françaises, notamment dans la blockchain, qui sont en train de signer des contrats avec des grosses sociétés du CAC 40 pour essayer de mettre en place des systèmes de blockchain à moyen long terme.
Patrick Artus, je vous vois bouillir.
Non mais deux choses, il ne faut pas confondre les crypto-monnaies et la blockchain.
Oui.
Ma banque fait du crédit sur la blockchain. Enfin, je veux dire, c'est une technique informatique, ça n'a aucun rapport avec les crypto-monnaies. Les smart contracts, on fait tout ça dans l'assurance, ça n'a aucun rapport avec les crypto-monnaies, c'est la blockchain. Donc il ne faut pas confondre l'instrument informatique et la monnaie qui est dessus. Oui. Deuxièmement, quand on a créé les banques, alors c'est quand même assez ancien, enfin disons dans le monde contemporain, en Italie, à la fin du Moyen-Âge, ça a été considéré comme un immense progrès par rapport à la situation antérieure où Monsieur A prêtait à Monsieur B, parce que les banques diversifient le risque et fournissent de la liquidité. Ben, je crois qu'il y a une supériorité terrible de la banque par rapport à la situation où Monsieur A prête à Monsieur B. Donc je ne crois absolument pas à ça. Non, je pense que les crypto-monnaies, c'est essentiellement aujourd'hui, à part à nouveau le petit noyau de gens qui y croient pour des raisons philosophiques, qui sont à nouveau des libertariens anti-État, c'est essentiellement quelque chose qui est purement spéculatif. Et comme c'est un actif qui n'a aucun intérêt, puisqu'il ne verse aucun revenu et qui ne finance pas l'économie, c'est quelque chose qui disparaîtra, quoi. Je ne vois pas qu'il puisse y avoir de futur à ça. À nouveau, la blockchain, c'est tout à fait autre chose. C'est un instrument extrêmement puissant.
Alors, la blockchain, ça peut permettre, par exemple, Nicolas Chéron, lorsqu'il est question de transparence dans l'économie, puisque ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui particulièrement important et qui est souligné par différents acteurs, il faut expliquer que la blockchain permet de tracer toute une série de choses. Et donc, dans un monde où la blockchain tracerait toutes les transactions, y compris des transactions minimes, les transactions de la vie quotidienne, il y aurait une surveillance, ça c'est le mauvais côté, et une transparence, donc une impossibilité, par exemple, d'avoir affaire à des mécanismes de corruption ou ce genre de choses.
Ah ben, il n'y a aucune inviolabilité de la blockchain, puisque elle est validée par le système de la blockchain qui est, lui, on ne peut pas hacker le système de la blockchain. Donc, c'est vraiment une validation qui est faite par plusieurs acteurs, et c'est un système qui va complètement valider les informations. Et je me perds un petit peu.
Et lorsque l'on voit ça, justement, Patrick Artus, on se dit qu'il y a une possibilité, effectivement, d'utiliser ces différentes techniques pour poursuivre la digitalisation avec, là aussi, des révolutions dans le domaine bancaire.
Oui, alors il y a deux niveaux. Moi, je crois à nouveau que ce qu'on aura, c'est les crypto-monnaies publiques. Donc, on aura du crypto-euro, du crypto-dollar, du crypto-renminbi, il y en a. Et ça, c'est quand même un changement considérable. Alors, il y a deux formes de crypto-monnaies publiques. Il y a celui qui ne sert qu'aux échanges entre les banques. Donc là, c'est vraiment la blockchain. Donc, à nouveau, c'est pas très intéressant. Enfin, c'est pas très intéressant, si, mais c'est de la technologie. Mais ce que font les Chinois, c'est de la crypto-monnaie privée. C'est-à-dire que vous allez payer avec du crypto renminbi. C'est-à-dire votre compte en banque, il va plus être dans une banque, il va être à la banque centrale. Et c'est la banque centrale qui va gérer vos transactions. Alors peut-être jusqu'à un certain plafond et pas tout. Et donc quand vous allez acheter votre déjeuner au restaurant, vous allez payer sur un débit de votre compte à la banque centrale. Alors il y a un risque totalitaire, parce que ça veut dire que l'État connaît toutes vos transactions.
Et c'est déjà le cas en Chine, puisque avant même qu'il y ait donc une crypto-devise, il y a la possibilité donc de supprimer la monnaie fiduciaire classique, et donc l'ensemble de vos transactions pourrait être tracé par, par exemple, le régime chinois.
Oui, mais après, la question est de savoir si ça, c'est géré par votre banque, donc vous avez un compte dans une banque chinoise, ou si c'est géré en crypto renminbi par votre compte dans les bilans de la banque centrale. Et vous voyez que là, on va en fait, si ça avance beaucoup, bah, les banques n'ont plus de dépôts, quoi. Les dépôts quittent les banques et vont à la banque centrale. C'est pour ça d'ailleurs que les Européens, pour l'instant, n'ont pas ce projet-là. Leur projet de crypto-euro, c'est juste de l'interbancaire. C'est les échanges entre banques. C'est pas, pour l'instant, quelque chose qui est un substitut au dépôt des banques. C'est un substitut aux billets et aux pièces, quoi, mais pas au dépôt. Mais si vous allez à l'étape suivante, c'est la banque centrale qui gère la liquidité, quoi. Et c'est plus les banques commerciales qui gèrent la liquidité.
Est-ce que ça veut dire, malgré tout, Patrick Artus, que on est dans une économie, dans une phase de l'histoire de l'économie où les banques centrale joue un rôle complètement inédit? Alors c'est à la fois compliqué à expliquer parce que ce sont des mécanismes extrêmement techniques, et cependant, eh bien, aujourd'hui, ils ont des conséquences sur notre vie quotidienne.
Évidemment, et moi je pense que ça pose un très très grand problème démocratique, qui est la question de l'indépendance. Les banques centrales, elles sont indépendantes parce qu'on est sur une fiction qui est que la seule chose qu'elles font, c'est contrôler l'inflation à long terme. C'est la théorie monétaire la plus basique. Mais aujourd'hui, les banques centrales font pas ça. Alors effectivement, elles vont gérer les moyens de paiement avec les crypto-monnaies, mais elles financent les États. hein, en monétisant les dettes publiques. Elles veulent intervenir dans le vert, elles veulent racheter les créances vertes à des conditions meilleures que les autres créances. Elles financent les entreprises. Au Japon, elles achètent des actions. La Banque du Japon est le plus grand actionnaire des entreprises japonaises. Hein. Et donc, les banques centrales, elles interviennent dans tous les aspects de l'économie. Donc, comment est-ce qu'elles peuvent être indépendantes? Comment vous faites tout ça sans être sous le contrôle des parlements? Donc, je crois qu'il y a, ça crée un gigantesque problème de démocratie.
Et pour la Banque Centrale Européenne?
La Banque Centrale Européenne, c'est une question. Alors, pour l'instant, ils n'achètent pas d'actions. Ils aident quand même considérablement les États à se financer, à faire des déficits publics. Donc, ils interfèrent avec les politiques de l'économie réelle. À nouveau, la théorie de l'indépendance, c'est très clair. La Banque Centrale peut être indépendante parce qu'elle n'interfère pas avec l'économie réelle, parce qu'elle a un seul objet, qui est le contrôle de l'inflation. Si elle sort de cet objet, ça pose un véritable problème parce que ce qui fait les fondements de l'indépendance n'est plus présent, clairement.
Patrick Artus, on a débuté cette discussion sur la question de l'inflation. Vous avez dit qu'elle est momentanée parce qu'il y a un certain nombre de besoins, du bois pour construire des maisons en bois, du métal parce que l'économie industrielle reprend. Mais l'inflation des actifs, ce que l'on vient d'évoquer, l'inflation sur les actions.
Oui, alors les actions de Tesla.
Par exemple, donc le constructeur d'automobiles électriques, ça aussi c'est un phénomène qui est étonnant.
Non, c'est pas étonnant, à nouveau.
C'est étonnant dans un climat économique quand même incertain.
Mais non, parce que si vous voulez, le mécanisme, il est simplissime. Hein. On vous donne de la monnaie, puisqu'à nouveau, c'est la monnaie qui finance les dépenses publiques. Et cette monnaie, vous n'allez pas la garder, ça ne rapporte rien. Vous allez l'utiliser pour acheter des bitcoins, des actions, de l'immobilier, des entreprises. Et donc, vous faites monter les prix des actifs. C'est-à-dire que la régularité qui était qu'il y a 100 ans, il y avait un parallélisme entre l'augmentation de la quantité de monnaie et l'augmentation des prix des biens. Vous le retrouvez aujourd'hui dans le parallélisme entre l'augmentation de la quantité de monnaie et l'augmentation des prix des actifs. D'ailleurs, si vous faites un joli graphique, vous verrez que les prix des actifs, donc les prix de l'immobilier, les cours boursiers, etc., ils suivent la quantité de monnaie.
Nicolas Chéron.
Oui, effectivement, on a eu des plans de relance, des plans budgétaires, des plans de soutien des banques centrales qui étaient historiques. Rappelons à vos auditeurs que le PIB mondial, c'est autour de 100 000 milliards de dollars. Si on met tous les plans les uns avec les autres, on est à plus de 10 000 milliards de dollars déversés sur l'économie et les marchés financiers. Pour se faire une petite idée, en 2008, lorsqu'on connaît la crise des subprimes, une des crises les plus importantes de ces 50 dernières années, on va injecter pour sauver les banques 2000 milliards de dollars. En l'espace de moins d'un an, c'est 5 fois plus que l'on met en place. Donc on est dans des proportions historiques, jamais vues. Ça crée de l'ultra-liquidité qui crée effectivement l'inflation des actifs dont vous parlez, et puis par ruissellement qui fait monter d'autres classes d'actifs comme les cryptos.
Un mot de conclusion, Patrick Artus. Donc, La dernière chance du capitalisme, votre livre que vous publiez avec Marie-Paul Virard aux éditions Odile Jacob. Là, c'est à plus long terme, mais avec évidemment une conséquence de ce qui est en train de se passer actuellement.
Oui, parce que je pense que capitalisme, d'abord, on l'a dit tout à l'heure, est assez peu efficace du point de vue du dynamisme de l'économie, enfin ce capitalisme-là. Et puis, il a ce qu'on appelle des béquilles. Et la dernière béquille, c'est cette gigantesque création monétaire. Parce que les chiffres que vous citez, c'est de la monnaie, quoi, je veux dire. Hein. C'est, faut comprendre que ces déficits publics, ils sont financés par la création de monnaie. Et ça finira mal. Hein. C'est-à-dire que vous continuez à augmenter la quantité de monnaie, les prix des actifs vont devenir délirants et on aura une énorme crise financière genre tulipe, hein, ou l'eau.
Tulipe, l'épisode des bulbes de tulipe où on spéculait sur les bulbes de tulipe au 17e.
Oui. Et soit on sort de cette politique à un certain moment, et là on a un problème avec les dettes, parce que les dettes ne sont portables que si les taux d'intérêt sont très bas, on en parlait tout à l'heure au sujet de Biden. Et donc, de toute façon, on ne peut pas faire l'économie d'une crise. Hein. C'est soit une crise de bulles, soit une crise de la dette. Et donc, cette crise va forcer à changer de capitalisme. Et donc,
mais quand?
Je sais pas, dans 3 semaines et 2 heures. Hein. Non, mais c'est 2023, le moment où les banques centrales vont devoir quitter cette politique, quoi. Et là, il va bien falloir faire autre chose.
Merci Nicolas Chéron de nous avoir exposé les principes de la crypto-monnaie. Patrick Artus, vous publiez avec Marie-Paul Virard La dernière chance du capitalisme, et c'est aux éditions Odile Jacob.